With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison 2021 en NFL. Sur Touchdown Actu, on parle des Chargers aujourd'hui et pour en parler avec moi, il y a Grégory Richard, bonjour.
Bonjour messieurs, bonjour à tous.
Et Lucas Vola, bonjour.
Salut tout le monde, salut messieurs.
Les Los Angeles Chargers, 7 victoires, 9 défaites la saison dernière. On a signé Jared Cook, Matt Feiler, Odey Abushi, Corey Linsley notamment pour l'attaque. Christian Covington, Kyler Fackrell en défense. Rashawn Slater, le tackle, a été le choix principal de la draft. Asante Samuel Jr. aussi en défense. On a perdu Tyrod Taylor, Hunter Henry, Sam Tevi, Trey Turner, Forrest Lem, Dan Finney, Mike Pansay. Beaucoup de monde sur la ligne défensive. En défense, sur la ligne offensive, pardon. Et en défense, on a perdu Melvin Ingram, Denzel Perryman, Kazee Hayward ou Jalil Adae. Comme pas mal d'équipes qui ont un jeune quarterback, on était sur une opération entourée de lanceurs, j'ai envie de dire. Ici, c'était Justin Herbert. Corey Linsley sur la ligne, un tackle à la draft. Est-ce qu'il sera dans des meilleures conditions, Greg?
Oui, on va dire qu'il sera quand même dans des meilleures dispositions. Je trouve que son escouade de receveurs, en tout cas, a quand même une bonne gueule. Le duo Keenan Allen ou Mike Williams, en effet, est assez intéressant, assez performant depuis maintenant quelques années, notamment Allen, qu'on ne présente plus, un des tout meilleurs receveurs de la ligue. On a vu également qu'il y avait quelques joueurs qui pouvaient sortir du chapeau. Je pense à un Jalen Guyton, par exemple, la saison dernière. On a vu qu'ils ont considéré certaines cibles, en effet, je le disais. Alors, Jared Cook qui arrive, qui connaît bien le coordinateur offensif en place, le nouveau coordinateur offensif, en tout cas, Mike Lombardi, Josh Palmer qui arrive de Tennessee, qui avait été une petite sensation dans le processus draft.
C'est Joe Lombardi.
Joe Lombardi, pardon.
Mike, c'est...
Autant pour moi. Donc oui, en tout cas, il connaît le coordinateur offensif en place, puisqu'ils ont collaboré ensemble du côté des Saints. Donc mine de rien, niveau skill player, c'est toujours la même chose, il y a toujours quelques armes intéressantes. Et puis, on ne peut pas dire qu'on n'a pas considéré la ligne, c'est sûr, c'est un bémol depuis maintenant pas mal d'années du côté des Chargers, c'était notamment le cas de mémoire lors des années Russell Okung par exemple. Enfin voilà, ça a toujours été un petit bémol, notamment le pass pro. Et là, en l'occurrence, on a pas mal considéré avec pas mal d'arrivées, un bon petit mélange d'expérience, mais en tout cas des choses qui devraient permettre à Justin Herbert, déjà extrêmement bluffant pour sa saison rookie, de franchir un nouveau palier en 2021.
Oui, ils avaient la 9e attaque déjà l'an dernier sur les yards accumulés, ce qui est quand même en effet une sacrée surprise parce qu'on attendait probablement pas ça de Justin Herbert qui n'était pas titulaire en début de saison. Et tu l'as dit, donc Keenan Allen, Mike Williams, Austin Eckler au sol, une ligne offensive renforcée. Lucas, est-ce que c'est que du point fort sur l'attaque?
Non, que du point fort, non. Pour moi, la seule assurance de cette équipe, c'est l'attaque aérienne, parce qu'il y a Herbert, parce qu'il y a Allen. Je ne vais pas répéter tout ce qu'a dit Greg, mais j'aime beaucoup la signature de Jared Cook, parce que c'est pas un joueur qui va prendre beaucoup de place, mais l'année dernière, il fait 500 yards, 7 touchdowns. Ça fait du bien pour un quarterback, notamment quand le quarterback n'est pas forcément expérimenté au niveau NFL. Mais c'est pour moi la seule assurance, parce qu'après, derrière, j'ai eu du mal à... J'avais l'impression de vouloir mettre tout en facteur X, parce que la ligne offensive, l'année dernière, elle était catastrophique, mais elle était Elle était en grande difficulté. Voilà, j'ai essayé de trouver quelque chose pour pas être trop dur, mais elle était en grande difficulté. Ils ont fait beaucoup de recrutement. Ils ont drafté un joueur sur ses postes, mais est-ce que ça va bien prendre? Le jeu au sol, t'en parlais, Keller, c'est fort, mais c'était blessé l'année dernière. Il est souvent blessé. Est-ce qu'il va réussir à assumer ce rôle de numéro 1 sur toute une saison? Derrière, il y a le joueur qu'ils ont drafté. Joshua Kelly, je crois qu'il fait pas une super saison en tant que rookie. Donc j'ai du mal à voir l'attaque dans son ensemble comme une vraie force. Pour moi, la vraie force, c'est l'attaque aérienne.
Ouais, donc vraiment ce jeu mené par Justin Herbert. Je vais aller directement dans les clichés pour demander pourquoi il pourrait perdre et ou régresser. Est-ce que Justin Herbert peut taper un mur de la deuxième année? Est-ce que il peut régresser? Est-ce qu'il peut continuer les choses exceptionnelles qu'on a vues? Est-ce que les coordinateurs défensifs auront regardé les vidéos et pourront s'adapter maintenant? Ou est-ce qu'on est sur un Justin Herbert qui n'est pas un point d'inquiétude? Grégory.
Bah, tout dépend, encore une fois. Je pense que c'est sûr que si sa ligne offensive, notamment de par les nombreux réajustements qui ont été effectués, n'arrive pas à trouver les automatismes et le met constamment sur le reculoir, c'est sûr que ça peut semer le doute. Ça peut éventuellement l'amener à prendre des décisions peut-être un peu précipitées, peut-être un peu, je vais pas dire un excès d'assurance, mais ouais, enfin, ce côté, en tout cas, on sait de quel bois on chauffe, on va dire, mais où on peut peut-être un petit peu précipiter ses lancers par moment sous la pression. Mais ouais, non, on a vu qu'il y avait tellement un... Ça a l'air d'être quelqu'un qui gère relativement bien la pression dans la poche. Donc même ce phénomène-là, c'est vrai que j'aurais du mal à te dire que la deuxième année va être un peu plus compliquée pour lui. Va falloir faire attention forcément d'un point de vue santé, mais bon, c'est après, c'est défoncer des portes ouvertes. Ce que je dis concrètement, le potentiel il est là, il y a une escouade autour de lui, un jeu au sol qui peut être meilleur. Je relativiserai un petit peu ce qu'a dit Lucas sur Joshua Kelley. Je pense que pour un quatrième tour, statistiquement, c'est pas déconnant. Je pense qu'il faut voir un petit peu plus qu'on peut en obtenir la saison prochaine. Ça peut en tout cas être un des joueurs qui peut permettre à ce jeu au sol, si j'anticipe un peu, d'être plus efficace en termes de conclusion d'action. Parce qu'en effet, je le rejoins par contre là-dessus, c'est sûr qu'on a été extrêmement dépendant, peut-être trop dépendant par moment du jeu aérien. Mais non, pour répondre à ta question, j'ai du mal à voir des explications, des phénomènes qui pourraient faire que vraiment Justin Herbert reculerait de manière substantielle en 2021.
Très bien, après, c'est rassurant, Lucas.
Excuse-moi, je te coupe, Alain, mais après, il y a une question qu'il faut qu'on se pose, c'est que reculer, je ne pense pas que Herbert reculera, il ne fera pas moins bien que l'année dernière. Maintenant, est-ce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il progresse et qu'il fasse mieux? Alors, c'est difficile, mais c'est ça la question que je pense qui est cruciale, c'est que est-ce que s'il fait la même chose que cette année, l'année prochaine, ou voilà, selon comment vous voyez, si on est déjà en 2021, est-ce que cette année, il fait la même chose que l'année dernière? Est-ce qu'on considère que c'est une bonne saison pour lui, ou est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit encore meilleur? Et c'est parce que régresser, je suis d'accord avec toi, je suis pas sûr qu'il régressera parce qu'il est dans le même contexte et il n'y a pas de raison pour lesquelles il régresse. Mais est-ce qu'il va progresser? Je sais pas.
Est-ce qu'on jugera mieux sa progression de par les statistiques individuelles ou de par ce qu'il arrivera au par de palier qu'il le palier qu'il arrivera à faire franchir à l'équipe? La principale chose qu'on va lui demander, oui, s'il a des statistiques similaires cette année mais que les Chargers vont en playoff, déjà, ce serait une forme de progression.
Oui, parce qu'il part sur des stats très élevés. Hein. C'est aussi pour ça que je posais la question. 31 touchdowns, 10 interceptions, c'est quand même du très, très beau et du très solide. On va aller quand même sur les causes donc, d'inquiétude, pourquoi il pourrait perdre. On a beaucoup parlé donc de l'attaque. Est-ce qu'au niveau de la défense, Lucas parlait de beaucoup de facteur X. Moi, j'avoue que j'ai quasiment toute la défense, j'ai toute la défense en facteur X. Est-ce que, Greg, toi, tu les mettrais dans les causes de défaite?
Forcément, c'est vrai que c'est pas bon. Alors, j'avais mis des réserves sur les 49ers, je vais pas changer d'avis. Reinaldo Hill, le nouveau coordinateur défensif, c'est quand même très jeune. Brandon Staley lui-même, hein, en tant que head coach, c'est une courte expérience en tant que coordinateur défensif au Rams de mémoire.
Oui, oui, oui.
Même s'il avait été coach des backers au Bears précédemment. C'est vrai que là, en l'occurrence, le rôle du coaching staff va être important pour permettre à cette défense de vraiment franchir un palier, sachant que le pass rush n'était pas non plus transcendant l'année passée, qu'ils ont perdu Melvin Ingram, qu'ils ont un Joey Bosa qui, bon, malgré tout, a du mal à faire des saisons complètes depuis son arrivée dans la Ligue. Et voilà, parlant de joueurs qui ont du mal à finir les saisons, voilà, dans le backfield défensif, on adore tous, je pense, le talent d'un Derwin James. Mais il faudrait en effet qu'il fasse une campagne complète, sachant que dans le backfield, tu perds en plus Kaze Hayward. Ça fait quand même malgré tout beaucoup. Il y a une grosse, voilà, là aussi, il y a une grosse refonte qui s'amorce avec un passage dans une 34. Quelques joueurs dont on attend qu'ils se développent, hein, Kenneth Murray notamment sur le deuxième rideau. Mais c'est vrai que notamment contre la passe, même si tu l'as cité, j'adore par exemple Asante Samuel, le cornerback rookie, ça peut faire un petit peu léger à côté du vieillissant Chris Harris par exemple au niveau du backfield ou voilà au niveau des intermittents sur la ligne défensive, notamment Jerry Tillery.
Je vais pas reprendre ce que tu as dit. Moi, j'avais exactement tous ces doutes-là. Harris, Hayward, etc. Derwin James, qui est pas assez en forme. Lucas, tu les avais en Factor X, du coup?
Oui, clairement. Clairement, comme je vous le disais, moi, j'avais un point fort, c'était Herbert. Tout le reste était en Factor X. Vous en avez beaucoup parlé. Et la défense en faisait partie parce qu'il y a des noms, quand même. Quand tu cites les noms, Greg, Bosa, alors oui, c'est un peu instable en termes de santé, mais quand il a son meilleur niveau, c'est très fort. Harris, ça peut faire le job. Derwin James, ça fait partie des meilleurs à son poste s'il est en bonne santé. Et tout ça, en fait, fait qu'il y a beaucoup de questionnements. Le nouveau coach, qui est un coordinateur défensif, en tout cas qui vient d'un poste de coordinateur défensif, est forcé de constater qu'au Rams, il avait mis en place une super défense après parce qu'il avait les joueurs qu'il fallait. Mais est-ce qu'il ne peut pas transposer certains de ses concepts à cette défense-là? Je regardais les statistiques. Ils ne sont pas mauvais dans toutes les statistiques, les Chargers, pardon. Je confonds les deux Los Angeles, les Chargers. Mais ils prennent beaucoup de points. Mmh. Et donc, du coup, c'est pour ça que je les mets en Factor X, parce que comment on explique qu'ils ne sont pas mauvais contre la passe, pas mauvais contre la course, mais en même temps qu'ils prennent beaucoup de points? Voilà, c'est pour moi un gros facteur X, toute cette défense en entier.
C'est marrant, on avait la même stat. Je trouve aussi qu'il y a un cap à passer dans la régularité, parce que de prendre plus de 26 points par match tout en étant si solide dans le top 10 sur les yards concédés, il y a un truc de cohérence à gérer aussi. Donc d'avoir pris un coach qui vient du secteur défensif, peut-être que ça aidera à régler ça, mais comme vous l'avez tous les deux dit, bah c'est incertain, parce que c'est un jeune coach, on ne sait pas encore ce qu'il peut faire, et qu'il y a du boulot de ce côté-là. Donc on a quand même une équipe qui est majoritairement en point d'interrogation, quoi. Quasiment toute la défense, le jeu au sol, un peu de ligne, c'est quand même une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, si je comprends bien. Du coup, je vais vous donner le calendrier, parce que ça peut donner lieu à des scénarios divers et variés. Ça commence à Washington, ensuite Cowboys, Chiefs à l'extérieur, Raiders, Browns, Ravens à l'extérieur, semaine de repos en semaine 7, Patriots, Eagles à l'extérieur, Vikings, Steelers, Broncos à l'extérieur, Bengals à l'extérieur, Giants, Chiefs, Houston à l'extérieur, Denver et Vegas à l'extérieur pour terminer. C'est pas un calendrier ultra ultra difficile, je trouve, parce que ça croise avec la NFC Est notamment, et dans leur division. Alors oui, il y a les Chiefs, mais Denver et Las Vegas me semblent prenables pour eux. Donc il y a aussi du Cincinnati, même si du coup ça oblige à avoir Baltimore et Pittsburgh. Mais bon, il y a Cincinnati. Il y a pas mal de choses quand même, non, qui semblent jouables là pour cette équipe des Chargers.
Moi, je suis parti sur un bilan positif, mais très juste à 9-8. Après, c'est vrai que historiquement, les Chargers, comme on le disait, il y a beaucoup de points d'interrogation. Et puis, quand ils gagnent un match, ils sont capables de le perdre. Et inversement, donc c'est très compliqué de pronostiquer. Je vais dire 9-8, mais j'hésitais entre un 8-9.
Grégory.
J'en avais parlé dans un précédent podcast, je crois que c'est celui des Texans, où j'avais dit s'il y a bien une équipe qui peut perdre un match tout pourri contre une équipe largement à sa portée, c'est les Chargers. Encore plus avec un coaching staff en effet assez jeune. On a vu l'année dernière, en effet, alors je vais pas prendre toutes les stats, mais c'est vrai que c'était une équipe qui jouait beaucoup des fins de match à couteau tiré et qui tournait rarement dans le bon sens. C'est ce qui a coûté sa place d'ailleurs à Anthony Lynn. J'ai un peu peur qu'on soit dans une année de transition où on risque de se retrouver dans ce même scénario. Après, je pense que les Chargers pourront batailler quand même jusqu'au bout pour les playoffs, mais je rejoins Lucas, j'irai plus sur une fiche de 9 victoires et 8 défaites.
Je me suis un poil plus enflammé, j'ai mis 10 victoires. J'ai du mal à les retrouver sur le calendrier quand je le regarde là, mais je vais à 10. Je vais à 10. Sans dire que je suis hypé sur les Chargers, parce que ça m'a déjà coûté bien trop cher en termes de pronostics à travers toute l'histoire de ce podcast, mais je vais dire 10. Ouais, je pense qu'à 10, ça peut passer pour Los Angeles. Encore une fois, équipe qui a quand même pas mal de qualité, même s'il y a beaucoup d'incertitudes. Après, c'est assez logique. On commence à arriver un peu dans le ventre mou de ces previews. On va avoir quand même pas mal d'équipes où on est un peu entre deux autres. Donc voilà, 9, 9 et 10 alors pour les pronostics de cette équipe de Los Angeles. J'étais encore à deux doigts de dire San Diego, mais ça commence à rentrer. C'est comme ça qu'on termine la preview donc des Chargers. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font. Vous retrouvez toutes les previews nous en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur le site tdactu.com, nos réseaux sociaux à tdactu pour Twitter et Facebook, à tjournactu en entier pour Instagram. On se retrouve demain pour une nouvelle preview. Merci beaucoup Lucas, merci beaucoup Grégory. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.